au quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour à tous et à toutes en ce 16 avril 2026. Pluvieux, nuageux, mais on voit quand même un peu de lumière au bout du tunnel à partir, j'ai vu aujourd'hui, surtout demain et samedi, des températures très agréables qui sont prévues pour demain et samedi. Alors, on va en profiter pendant que ça va passer, parce que ça passe. Aujourd'hui, le 43e défi sportif Altergo s'en vient à partir du 23 avril et Émilie Bouchard, la bonté, directrice générale adjointe d'Altergo, sera avec nous pour nous donner plus de détails sur cet événement sportif d'envergure. Et également, les parasports avec notre chroniqueur Dominique Tremblay et puis nos chroniqueurs du jeudi qu'on retrouve avec plaisir, Monique Kirouac et Yvan Deslauriers. Bonjour.
Bonjour Hélène.
Bonjour Hélène.
Ça me fait plaisir de vous accueillir en cette journée de pluie, mais une journée où il fait soleil dans nos cœurs. Hein, c'est important ça.
Tout à fait.
N'est-ce pas Mathieu?
Absolument.
Ouais. Alors aujourd'hui, Yvan, vous allez nous parler de hockey, mais de façon pas on pourrait s'y attendre. S'en attend.
Non, on parlera pas du Canadien de Montréal, de Coupe Stanley ou quoi que ce soit de ce genre. C'est un match de hockey vraiment très spécial entre deux équipes féminines. Puis on parle d'équipe, là, mais le concept d'équipe est pas vraiment important là-dedans. Il n'y avait pas de points qui étaient en jeu ou quoi que ce soit. Alors, c'est une équipe du Grand Nord, de Inujuak, qui vient jouer contre une équipe dans les Laurentides à l'aréna de Saint-Acadre-des-Monts. C'est un match qui a pris près de 3 ans à s'organiser et je vous en raconte les péripéties. Ça aussi, ça va mettre un petit peu de lumière dans une journée grise.
On en a bien besoin. Monique, vous, je ne sais pas si vous allez mettre de la lumière, mais en tout cas, on ne se met pas la tête dans le sable. Vous parlez de dépression aujourd'hui.
Oui, c'est ça. J'espère que je ne vous déprimerai pas, mais je trouvais important de relever cet article qui a été publié dans UDM Nouvelles et qui résulte de la recherche d'un professeur qui s'appelle Serge Lecourt et de son étudiant Alexis Gondolphe. En fait, c'est que on associe souvent, Hélène, la dépression à la densité d'expression de la tristesse. Et ce que nos deux chercheurs ont découvert, que c'était pas comme ça que la dépression pouvait être décrite, mais plutôt c'était la difficulté de mentaliser cette émotion, ce qui veut dire de la comprendre et de décrire ses propres émotions autres que la tristesse.
Ah, on a bien hâte de vous entendre. Merci beaucoup, Monique. Bon jeudi tout le monde et merci d'être là.
Rendors-toi, font beaucoup moins de bien que de tort. Sur tes deux oreilles, tu dors encore. Si les pleurs sur les joues ont coulé, et le temps, plus rien ne peut changer. Lorsque ce jour viendra et que je partirai, crois-moi, je te réveillerai. Rendors-toi, c'est pas encore la fin du monde.
Alpha Rococo, la chanson « Je vais arrêter de crier », les jours de pluie.
À la une du Journal de Montréal de ce 16 avril 2026, du plomb dans l'eau d'érable. Au printemps, les élèves de la Kanawake Survival School ont l'habitude de récolter l'eau d'érable dans la forêt environnante, une tradition centrale dans la culture Mohawk. Mais cette année, il est hors de question pour eux de boire cette eau comme remède ancestral et encore moins de la transformer en sirop d'érable. La recommandation du Bureau de la protection de l'environnement de Kanawake, qui a fait analyser des échantillons d'eau d'érable le mois dernier, est sans équivoque. Les résultats ont révélé des concentrations de plomb jusqu'à 8 fois plus élevées que la recommandation de Santé Canada pour l'eau potable. Et ce n'est pas tout, puisqu'il faut faire évaporer 40 litres de sève pour produire 1 litre de sirop. La teneur en plomb augmente dans la même proportion. Le produit final dépasserait de loin le maximum permis par les producteurs et productrices acéricoles du Québec. La science juge qu'il n'existe aucun niveau sécuritaire d'exposition au plomb, encore moins pour les enfants et les adolescents. Nocif pour la santé, ce métal peut provoquer des effets sur la pression artérielle, le système nerveux et le développement des enfants. S'il est fréquent que des équipements acéricoles contaminent le sirop d'érable au plomb, plusieurs à Kanawake soupçonnent une autre source, c'est que Kanawake borde le parc industriel de Sainte-Catherine en Montérégie. Le conseil de bande a justement voulu réaliser des tests sur l'eau d'érable à la suite d'inquiétudes soulevées par des membres de la communauté quant à cette proximité. Les révélations de notre bureau d'enquête en janvier dernier sur les rejets en plomb et en sulfate de l'usine de Terra Pure, située à environ 1 kilomètre de l'école, n'ont rassuré personne. Il est toutefois trop tôt pour connaître la source exacte des contaminants dans l'eau d'érable. La direction de la Kanawake Survival School a choisi d'utiliser la suspension subite de sa production de sirop d'érable pour sensibiliser ses étudiants à la pollution environnementale. Normalement, les 250 étudiants de cette école auraient produit des bonbons à l'érable et une 40aine de litres de sirop distribués dans les familles. Surtout, ils se seraient familiarisés avec la tradition ancestrale qui entoure Wahta, W-A-H-T-A, l'érable en langue Mohawk. Cette année, elle espère plutôt inviter un scientifique pour une conférence et organiser une collecte d'échantillons d'eau d'érable pour que les élèves en fassent leur propre analyse. Alors, c'est la une du Journal de Montréal d'aujourd'hui. À la une du Devoir, Christine Fréchette, encore à la une, et on comprend pourquoi. Elle a prêté serment à l'Assemblée nationale à Québec mercredi. Elle est ainsi devenue la 33e personne, mais seulement la 2e femme à occuper le poste de chef du gouvernement québécois. Lors de son discours, elle a notamment pris l'engagement de gouverner avec ambition et avec détermination. École québécoise, un droit acquis élargi pour le port de signes religieux. L'adoption du projet de loi 94 visant à renforcer la laïcité dans le réseau scolaire aura-t-elle fait plus de peur que de mal dans les écoles de la province? Un récent élargissement de l'accès au droit acquis de porter un signe religieux dont bénéficient les employés embauchés avant le 20 mars 2025 a fait pousser un soupir de soulagement à plusieurs, a constaté Le Devoir. Des centaines de congédiements demeurent tout de même à prévoir dans la grande région de Montréal. Et puis, à la une du Devoir toujours, documentaire, c'est Éric Desrosiers qui écrit l'article qui parle d'un documentaire qu'on pourra voir à la télé très bientôt. Subir ou choisir explore les voies que la province pourrait emprunter pour rééquilibrer son économie et présente 7 clés pour s'adapter aux défis sociaux et environnementaux contemporains. Documentaire de Mathieu Vachon et de la journaliste Diane Bérard qui s'intitule « Subir ou choisir la transition économique » qui sera présentée le vendredi à 21h sur Ici Télé, la télé de Radio-Canada. Et puis, je termine avec la une de la presse plus. Christine Fréchette qui est aux commandes. Je n'oublierai jamais d'où je viens. Christine Fréchette est officiellement la première ministre du Québec et compte s'inspirer de son parcours pour la suite des choses. Et il y a un article signé Charles Cavalier, Fanny Lévesque, qui écrit tout juste assermentée comme première ministre, Christine Fréchette envoie un message aux plus fervents nationalistes en s'engageant à défendre la laïcité jusqu'au bout et à ne reculer devant rien pour protéger les valeurs québécoises. Bernard Drainville se rallie et demande à ses partisans d'éviter le chichi. La fille de Trois-Rivières a fait cette promesse lors d'un discours très personnel où elle expliquait que de quelle façon son enfance, son éducation et ses valeurs ont influencé la vision qu'elle a pour le Québec. « Je fais partie de la génération X, celle qu'on appelait la génération sacrifiée », a-t-elle souligné, sacrifiée en raison d'une inflation très élevée provoquée par la guerre du Golfe. Elle ne veut pas que les jeunes d'aujourd'hui vivent les mêmes difficultés, soit avoir de la misère à trouver un emploi et à devenir propriétaire. S'il y a une raison pour laquelle je me suis lancée en politique, c'est parce que je veux faire briller le Québec, parce que je veux redonner confiance en l'avenir aux Québécois, parce que je ne veux plus jamais qu'une génération ait le sentiment d'avoir été sacrifiée. Elle a déjà indiqué qu'elle souhaitait proposer des mesures liées au coût de la vie. Les Québécois ne demandent pas de grandes promesses abstraites, ils demandent des gestes concrets, ancrés dans la réalité, affirme Christine Fréchette, première ministre du Québec.
Peu de sel et de sable, stop chocolaté. J'ai envie de prendre tout mon temps. Sur tes chevilles ornées, doucement t'embrasser. J'ai envie de prendre tout mon temps. C'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Une autre terre, un autre endroit. Des petits bouts par-ci par-là, évaporer c'est déjà ça. Brûlé par le soleil mais sous la voie lactée, j'ai envie de prendre tout mon temps. Malgré ces canadaires sous nos cieux embrasés, j'ai envie de prendre tout mon temps. Par là, évaporer c'est déjà ça. Ouh, et si en plus de l'autre côté. Ouh, Waluna deuil à personne à prier. Encore une belle journée sous ces pluies acidulées. J'ai envie de prendre tout mon temps.
vois passer les ogives estampillées quartier. J'ai envie de prendre tout mon temps.
Cheval, c'est le nom du groupe de la formation et c'est le titre de la chanson, c'est pas grave.
Et Yvan Deslauriers, c'est notre chroniqueur du jeudi. Yvan, aujourd'hui, vous allez nous parler de hockey, vous qui êtes fan de hockey. Vous en parlez autrement?
Oui, oui, puis ça me fait grand plaisir d'en parler autrement. C'est un événement. Puis ça vaut la peine d'en parler, puis on va finir la lecture de cet article-là avec probablement un petit sourire sur le bord des lèvres. C'est un article qui a été présenté par Alexandre Pratt dans la presse du 24 mars, et ça s'intitule « Une équipe de rêve, hockeyeuse amatrice du Grand Nord ». Alors, tout a commencé par une simple conversation de corridor entre une infirmière et une sage-femme. Loin, très loin d'ici, là où la carte devient blanche, à Inukjuak, sur les rives de la baie du Son. Le résultat, 2 ans plus tard, est le match de hockey le plus improbable auquel Alexandre Pratt a assisté. Les Zulouites contre les Palettes Roses, des hockeyeuses amatrices du Grand Nord contre d'autres des Laurentides devant des centaines de spectateurs qui ont payé leur billet à la fin du mois de mars à l'aréna de Sainte-Agathe-des-Monts. Une soirée de rire, de buts, d'accolades. Il y a eu des chants de gorge aussi. Une finale disneyesque. Et en clôture, une tablée digne des plus beaux buffets des histoires d'Astérix. Alors, tout a commencé par une conversation entre une infirmière et une sage-femme. L'infirmière s'appelle Karine Bernard. Elle se rend environ 20 semaines par année dans le Grand Nord. Elle dit « Je travaille présentement sur la tuberculose, qui est en éclosion dans la majorité des villages du Nunavik ». Lorsqu'elle revient chez elle dans les Laurentides, elle joue au hockey avec les Palettes Roses, cette formidable équipe dont Alexandre Pratt a raconté le voyage épique en Europe il y a quelques années. On peut retrouver cette chronique-là dans la presse. Karine désirait savoir si les femmes pouvaient jouer au hockey à Inukjuak. Après tout, il y a un aréna à 20 minutes de marche de la clinique. Elle a posé la question à sa voisine de bureau, Brenda Ipukokiapik. Bien sûr que c'est possible, lui a répondu la sage-femme. La preuve, elle-même avait longtemps représenté l'équipe féminine du village, les Ulouites. Brenda et moi, on a tout de suite connecté à cause du hockey, raconte Karine, qui s'est aussitôt mise à rêver d'un match entre les Ulouites et les Palettes Roses. Je me disais, hey, ça serait malade. Brenda partageait son enthousiasme, sauf que le rêve a vite rencontré la réalité. Il y a plus de 1500 kilomètres qui séparent Inukjuak de Sainte-Agathe-des-Monts, et entre les deux, il n'y a pas de route. La seule option, c'est l'avion. Et vous aurez deviné que le billet coûte pas mal plus cher qu'un trajet en voiture entre Saint-Sauveur et Mont-Tremblant, même au coût du litre d'essence actuel. Le projet est resté un rêve pendant 2 ans. Jusqu'à ce jour, en novembre dernier, où Brenda est allée voir Karine avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. « Karine, on a les sous! »« Les sous? » Oui. l'argent nécessaire pour prendre l'avion jusqu'à Montréal. Les femmes de la communauté se sont mobilisées et ont convaincu la société Makivik de financer leur déplacement. C'était l'étincelle dont le projet avait besoin. Au sud, les palettes roses se sont activées elles aussi. Elles ont décidé de rendre l'entrée payante. Les fonds allaient servir à financer un organisme de charité des Inuits, ainsi que le programme des mini-palettes, qui permet à 114 jeunes filles des Laurentides de jouer au hockey à un coût très abordable. Plusieurs joueuses des Ulouites n'avaient pas chaussé de patins depuis très longtemps. C'était notamment le cas de Brenda, qui a cessé de jouer il y a 15 ans. Les femmes ont donc formé un club de marche et multiplié les entraînements en vue du grand match. Le hockey féminin n'est pas très structuré là-bas, nous explique Karine. Tout le monde sait un peu jouer, mais il n'y a pas de coaching. En plus, l'aréna n'est pas réfrigérée. Tout dépend de la température extérieure. Et ça prend de l'eau qui est transportée par camion. Et souvent, il en manque pendant plusieurs jours.
Il n'y en aura pas de facile.
Pas juste pour faire de la glace à l'aréna. Pour tous les besoins de base aussi. Oui, il n'y en a pas de facile dans ces coins-là. Alors, vendredi 17h45, plus d'une demi-heure avant le début de la partie, il y a une odeur de hot dog qui flottait dans l'aréna. René-Claude Gélina de la Palette Rose, chargée de la logistique pour la soirée, disait qu'elle en a préparé 400 hot dogs. Sa coéquipière, Véronique Dubé, l'a entraîné Alexandre Pratt dans les coulisses jusqu'au vestiaire que partagent les deux équipes. Donc, les deux équipes étaient au même endroit. D'ailleurs, si vous allez sur le site de la presse pour voir l'article, il y a une petite vidéo où on peut voir ça. Le voyage des Inuits a été plus compliqué que prévu. Un blizzard a forcé le report de leur vol d'une journée. Et le lendemain, il n'y avait que 9 sièges disponibles pour 12 joueuses.
Oh.
Les trois autres sont arrivés à Montréal 2 jours plus tard. Tout juste avant la partie. Je me suis assise, c'est Alexandre Pratt qui parle, à côté de Brenda qui finissait de lasser ses patins. Elle dit, je suis tellement excitée, avec un grand sourire. Quand j'étais plus jeune, je jouais 2 ou 3 fois par semaine. Nous participions même à un grand tournoi chaque saison, la Whale Cup, ou la Coupe de la baleine. Les aventures des Ulouites sont d'ailleurs racontées dans un documentaire « The Ulouite Champions of the North », ou bien les Ulouites, les championnes du Nord. Mais ça fait presque 15 ans que je ne joue plus. J'ai arrêté car j'avais trop de responsabilités. Mais j'aurais dû continuer parce qu'après, j'ai commencé à faire du diabète. À sa gauche, la capitaine des Ulouites, Rita Ningjuk, était tout aussi fébrile. Elle dit, moi, je n'ai jamais arrêté. Je joue encore une fois par semaine avec les jeunes filles. J'adore le hockey. Avant de quitter le vestiaire, les Inuits ont demandé aux joueuses des deux équipes de former un cercle le temps d'une prière. Puis, les joueuses se sont engouffrées dans le corridor jusqu'à la glace. Environ 300 spectateurs les ont accueillis avec des cris, des clochettes et des pancartes. Les mini-palettes étaient très bien représentées. Beaucoup de parents, amoureux, enfants et amis des palettes roses s'étaient aussi déplacés en grand nombre. Ça me fait chaud au cœur à lancer Karine Bernard à la foule avant de passer le micro à Brenda et Rita qui ont entamé leur discours en Inuktitut. Les spectateurs, qui ne comprenaient pas un mot, ne savaient pas trop quand réagir. Rita est passée à l'anglais pour sa toute dernière phrase. « Vous êtes chanceux d'avoir de l'eau courante quand vous le désirez. » Ça pince. « On a beaucoup à apprendre de leur réalité, c'est désolé, Karine. » Je venais tout juste de croiser, c'est toujours André Pratt qui parle, un sympathique représentant de la députée locale, la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau. J'espère, j'ai dit André Pratt, hein, c'est son père, c'est Alexandre Pratt qui me dit ça. J'espère que les messages seront relayés aux autorités compétentes. Des Houlouites ont enchaîné avec des chants de gorge, puis le spectacle le plus attendu, le match de hockey, a commencé. Quelques palettes roses, dont Karine et Véronique, s'alignaient avec les Houlouites, beaucoup plus petites que leurs adversaires. Les palettes roses ont rapidement pris l'avance, 3-0. Rita a brisé la glace pour les Inuits avec quelques secondes à jouer dans la première période. Tous les spectateurs se sont levés d'un bond. Elle a eu droit à une belle ovation. Même sa gardienne a traversé la patinoire pour la féliciter. Le pointage s'est resserré. Après, avec une minute à jouer, les palettes roses ont pris l'avance 7-6. Puis, sur la toute dernière action de la partie, Rita a réussi le but égalisateur. Tout le monde souriait, tout le monde célébrait. Les haut-parleurs crachaient, ça fait rire les oiseaux de la compagnie créole. Les joueuses des deux équipes dansaient. La fête s'est poursuivie jusqu'à la fermeture de l'aréna à 23h. Quelques joueuses se sont retrouvées le lendemain pour une partie sans pancarte ni clochette, ainsi que pour un festin préparé par les Inuits. Au menu, de la perdrix, du caribou, de l'omble de l'Arctique. Le tout coupé avec le couteau traditionnel des femmes Inujuak, Luluit, qui a inspiré le nom de l'équipe. Pas certaine que le boucher du métro de Sainte-Agathe aurait pu me faire vivre une telle expérience, a dit Véronique Dubé, enchantée de sa semaine, de sa fin de semaine. Ce sont des moments de partage vraiment surprenants et émouvants. Je ne verrai plus jamais des images du Grand Nord de la même façon. Vive le hockey! Alors, c'était l'article de Alexandre Pratt qui s'appelle Une équipe de rêve, qui était dans la presse du 24 mars.
Super article.
Quelques secondes pour vous dire d'essayer de suivre le parcours de Shauna Burke. J'en ai déjà parlé en onde. On a fait une émission aussi à la.
Au-delà des limites?
Au-delà des limites, merci de me sauver. Elle commence son ascension aujourd'hui. Elle est dans la vallée de l'Everest aujourd'hui et ça commence aujourd'hui. Alors, on peut la suivre sur Instagram.
Super. Et en 3 secondes, 7-7, sont pas allés en prolongation?
Je pense que la prolongation s'est terminée en festivité, okay. Je pense.
Merci, Yvan. Vous devez nous quitter. À la prochaine.
Oui.
Alors. Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
On tico tico tic, on tico tico tac, ça tico tico même mon cœur tout en micmac. Et lorsqu'il dit coucou, il me dit aimez-vous, mes amoureux s'appuient sur lui dans mon patin. Et quand il crie 8h, tout chavirant mon cœur, je pars une heure bien pour petites heures du matin. Quand je suis d'accord, coucou, mais autrement, vous, ah, qu'il est joli et charmant mon petit coucou. C'est un oiseau qui amène se laisse prendre, il connaît tous les rendez-vous, comment t'y rendre. Et dans les affaires d'amour, mon petit coucou est là toujours, il me dit
Millie et Bob qui reprenaient la chanson Tico à leur façon.
Oui, et il y a un album de remix des succès d'Alice Robbie par cette formation qui va être lancée dans les prochaines semaines. On vous tiendra au courant. Pour tout de suite, on va joindre Monique Kirouac qui nous parle de dépression. La dépression n'est pas qu'une question de tristesse, Monique.
Exactement, oui. C'est un article qui a été publié dans UDM Nouvelles le 8 avril dernier sous la plume de Virginie Soffer, mais elle nous relate en fait le résultat de recherche d'un professeur, entre autres, au département de psychologie. Alors, on associe la dépression à une immense tristesse. Pourtant, cette représentation simplifiée ne correspondrait pas à ce que vivent les personnes qui en souffrent, et cela selon une étude menée par Serge Lecourt, qui est professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal, et son étudiant Alexis Gondolf, auprès de plus de 60 adultes de la région montréalaise. Les résultats montrent notamment que la gravité des symptômes dépressifs est fortement associée à l'hostilité dirigée contre soi, ainsi qu'à une difficulté à mentaliser la tristesse, c'est-à-dire à reconnaître et à mettre en mots cette émotion. Alors, pour mieux comprendre ces dynamiques émotionnelles, les chercheurs ont recruté 62 adultes âgés de 18 à 60 ans qui avaient fait une démarche de soins psychologiques dans un service de consultation. La gravité de leur dépression a d'abord été évaluée selon l'échelle de dépression de Hamilton. Il semblerait, Hélène, que c'est le test le plus utilisé pour évaluer l'intensité des symptômes dépressifs. Alors, j'ai fait une recherche et j'ai relevé cette échelle qui est composée de 17 éléments différents d'évaluation, 17 indicateurs. On trouve, bon, humeur dépressive, culpabilité, agitation, anxiété psychique, insomnie de fin ou de milieu de nuit, symptômes somatiques généraux, perte de poids, hypochondrie et j'en passe. Puis les participants et participantes ont pris part à une entrevue semi-dirigée durant laquelle ils devaient raconter des expériences relationnelles marquantes ayant suscité différentes émotions, notamment de la tristesse. Ces entretiens ont été transcrits et analysés, bien sûr. Les chercheurs ont alors relevé des centaines de moments émotionnels évoqués. Par exemple, je me sentais triste, j'étais fâchée ou je m'en voulais, et ils ont coté chacune de ces émotions. Pour cela, pour les coter, ils ont utilisé la grille de l'élaboration verbale de l'affect conçue par même qui sert à évaluer la qualité de la mentalisation des émotions.
On a manqué un petit bout par Serge Lecourt, hein, parce qu'il y a eu comme...
Oui, excusez-moi.
Non, mais sur la ligne, là, ça, il y a eu de la friture, puis on vous a perdu 3 secondes.
Oui, c'était par Serge Lecourt, en effet, qui sert à évaluer la qualité de la mentalisation des émotions. Ils ont également utilisé la mesure pour l'identification des contenus affectifs qui permet de distinguer 24 émotions exprimées dans le discours, comme l'intérêt, l'indifférence, la surprise, la joie, la tristesse. Si on veut comprendre comment les émotions sont réellement vécues, il est utile d'observer comment elles apparaissent spontanément dans le récit. L'étude repose sur une distinction importante dans la régulation émotionnelle. D'une part, il y a la dimension quantitative qui correspond à la fréquence et à l'intensité des émotions ressenties. D'autre part, il existe une dimension qualitative, soit la capacité à mentaliser les émotions, c'est-à-dire à les reconnaître, à les comprendre et à les exprimer mentalement à l'aide de mots ou d'images. Quand on peut dire « je me sens triste, anxieux » ou « j'ai le bleu ou les blues », on est déjà en train de réfléchir à l'émotion ressentie. Selon les résultats de l'étude, les individus présentant davantage de symptômes dépressifs ont tendance à mentaliser moins bien leur tristesse. Chez certaines personnes dépressives, la tristesse n'est pas vraiment reconnue comme telle. Elle se manifeste plutôt sous forme de détresse ou de sensations corporelles. Cette observation rejoint d'ailleurs certains symptômes de la dépression, comme la fatigue, la perte d'énergie ou les difficultés de concentration. L'une des découvertes les plus contre-intuitives de cette recherche est que le poids de la tristesse exprimée ne serait pas le meilleur indicateur de la dépression. En demandant aux participants de raconter des expériences qui les avaient amenés à ressentir de la tristesse, Serge Lecourt et Alexis Gondolf ont observé qu'étonnamment, les personnes dépressives évoquaient souvent d'autres émotions. Elles parlaient plutôt d'interactions difficiles, souvent marquées par de la colère, de l'injustice ou de la culpabilité. Et leur réaction consistait fréquemment à s'en vouloir. On note alors deux unités. Je m'en voulais et je n'ai pas été brillant. Ces deux choses sont dirigées contre elles et elles ne parlaient pas de tristesse à ce moment-là. Ce phénomène correspond à ce que le psychologue américain Carol Izard appelle la tristesse compliquée. En théorie, la tristesse est une émotion adaptative. Elle nous permet de reconnaître une perte et d'en faire le deuil. Mais chez certains individus dépressifs, cette tristesse se retrouve mêlée à d'autres affects, comme la culpabilité, la honte ou le mépris de soi. Selon Serge Lecourt, cette dynamique peut s'expliquer par leur histoire émotionnelle. Dans plusieurs cas, la tristesse n'a pas été une émotion permise. Être triste pouvait être perçu comme un signe de faiblesse ou de vulnérabilité. Alors, quand la tristesse apparaît, elle est rapidement remplacée. L'étude a aussi révélé des corrélations inattendues quant à la vie relationnelle des patients. Les personnes présentant davantage de symptômes dépressifs évoquaient moins souvent des sentiments d'amour ou d'attachement envers les autres. À l'inverse, leur discours contenait plus d'expressions de désir ou de manque, comme « j'aurais voulu »,« j'aurais aimé », lorsqu'elles parlaient de ce qu'elles auraient souhaité recevoir dans une relation. Toujours selon Serge Lecourt, ce résultat pourrait refléter une vie relationnelle insatisfaisante. Quand les gens racontaient des expériences de tristesse, ils parlaient surtout de relations difficiles, souvent marquées par des conflits ou des frustrations. On voyait moins de références à des relations d'attachement positives. Ce type de discours amoureux est également synonyme d'anhédonie. Je vous l'appelle, Hélène, A-N-H-E, accent aigu, D-O-N-I-E, c'est-à-dire une perte de plaisir profonde. Les relations ne sont plus alors vécues comme des sources de réconfort, mais comme le théâtre de conflits et de déceptions. Bon, ces résultats pourraient contribuer à mieux comprendre la dépression et à orienter certaines interventions thérapeutiques. Si la dépression était simplement une tristesse intense, ben le travail du thérapeute consisterait principalement à accompagner cette émotion. Mais dans bien des cas, la réalité est différente. Les personnes dépressives se trouvent dans un état plus douloureux. Elles ont besoin qu'on soit plus présent, plus validant, plus consolant. Elles ont souvent tendance à être très sévères envers elles-mêmes. Donc, une partie du travail thérapeutique consiste à leur faire remarquer cette autocritique. Le thérapeute vient également aider le patient à mettre des mots sur son expérience émotionnelle, ce qui permet de mieux comprendre et réguler ce qu'il ressent. Quand une émotion est mieux mentalisée, donc comprise et exprimée, elle devient souvent plus tolérable. On peut commencer à réfléchir plutôt que simplement la subir. En conclusion, mieux comprendre la manière dont les émotions sont vécues dans la dépression pourrait ainsi permettre d'affiner les approches thérapeutiques et de répondre plus efficacement aux besoins des personnes qui en souffrent. Et peut-être pour nous, comme un des mortels, Hélène, ben, à mieux comprendre et accompagner peut-être les personnes qui, dans notre entourage, ben, auraient donc ces symptômes de dépressifs, disons.
La dépression n'est pas qu'une question de tristesse. Un texte très intéressant que vous avez trouvé dans U de M Nouvelle, nouvelle.umontréal.ca pour lire ou se faire relire ce texte de Virginie Soffer. À partir du moment où on se met à réfléchir, il y a une sorte de pas en avant qui a été fait.
Exactement. Puis ce qui m'a vraiment touchée, Hélène, c'est l'espèce de regard négatif sur soi-même. On peut pas être triste, mais on développe alors peut-être colère et envers soi-même, ouais, surtout.
Culpabilité.
Peut-être envers notre univers.
Oui. Merci, Monique.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things.
La chanson Flowers de Miley Cyrus.
Des brèves avec vous, Monique Kirouac, et seulement vous, puisqu'Yvan a dû partir plus tôt que prévu. Et puis, on commence avec, vous avez quand même préparé plusieurs sujets, le prix Découverte de l'année 2025.
Oui, de Québec Science, qui couronne l'équipe de Marc Thérien. Alors, l'équipe du chercheur de l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie, que l'on appelle LIRIC, de l'Université de Montréal, a remporté le prix grâce à ses travaux sur la protéine BRAF, B-R-A-F, et son rôle dans la propagation des cellules cancéreuses. C'est le public, Hélène, qui a désigné le lauréat, plus de 2000 personnes ayant participé au vote. L'étude de Marc Thérien et ses collègues a permis de percer une partie du mystère entourant le pouvoir oncogène de certains mutants de la protéine BRAF. Le pouvoir oncogène, Hélène, c'est quand un gène mute et devient susceptible là, de provoquer le cancer. Alors, grâce à la cryomicroscopie électronique, les chercheurs ont mis en évidence les changements structurels qui permettent à la protéine de contourner les mécanismes naturels de contrôle de la cellule et de déclencher une prolifération incontrôlée, à l'origine notamment des cancers de la thyroïde, de la peau, du côlon et du poumon. Plus encore, l'équipe a réussi à ramener la protéine mutante à son état inactif, normal, grâce à de petites molécules inhibitrices, une première mondiale dans ce domaine. La découverte sur les mutants de la protéine BRAF ouvre la voie à de nombreux nouveaux médicaments, on espère nombreux, capables de les neutraliser et de freiner la progression du cancer. Alors, on les félicite, on est très fiers de cette première mondiale.
Oui, Marc Therrien et son équipe de LIRIC. Révolution, une femme à la tête de l'ONU?
Qu'en pensez-vous, Hélène?
Mais pourquoi pas?
Oh, ça paraissait jadis inimaginable, semble-t-il. C'est maintenant très probable. Alors que le second mandat d'Antonio Guterres se termine fin 2026, les appels se multiplient pour que le poste de secrétaire général des Nations Unies soit cette fois occupé par une femme. Alors, sur au départ, après l'ex-présidente chilienne Michelle Bachelet, l'ancienne vice-première ministre costaricaine Rebecca Greenspan est à son tour devenue candidate, plaidant du reste que pour que la sélection se fasse sans traitement de faveur. Et je la cite, « Nous ne voulons pas que la discrimination dicte ce choix. Le vrai sujet n'est pas de dire qu'il faut une femme, mais de se demander pourquoi il n'y en a pas eu jusqu'à présent. » Alors, la petite brève se termine en disant que cette révolution pourrait redonner du pep à l'ONU qui en a bien besoin par les temps qui courent.
Oui, complètement. Et on termine avec une capsule linguistique. J'aurais bien aimé qu'Yvan soit là parce qu'il est intéressé au sujet. Et souvent, Yvan et plusieurs personnes confondent, et c'est parce qu'on, quand on ne le sait pas, on ne le sait pas, température et temps. Quand on dit, oh, on va sortir en fin de semaine, il y a une belle température. Température, c'est le degré finalement. Mais je vous laisse aller.
Alors, en fait, je vais clarifier tout ça, Hélène.
Okay.
Oui, en effet. Le terme temps, ça désigne l'état général des conditions atmosphériques perçues subjectivement par l'homme et considérées dans son influence sur la vie et bien sûr les activités humaines. On dira que le temps est beau, est clair, est orageux, est pluvieux, est vilain, est superbe, est triste, est maussade, est couvert, est gris, est incertain, et etc. Donc, lorsqu'on parle de manifestations météorologiques caractérisées par le soleil, les nuages, la pluie, le vent, la neige, c'est le temps qu'il faut employer plutôt que température. Alors on dira, par exemple, pendant nos vacances, nous n'avons eu que du beau temps et non, on a eu de la belle température. Température, en météorologie, signifie état des conditions atmosphériques traduites subjectivement en sensations de chaleur, d'humidité ou de froid que l'on peut mesurer objectivement avec un thermomètre. Alors, des températures excessives, par exemple de 35 degrés Celsius, empêchent certaines personnes d'accomplir leurs tâches. On parlera aussi de température lorsque on parle du degré de chaleur du corps humain. Ta température est de 40 degrés Celsius, ben tu es fiévreuse. Il faut garder le lit, rester dans la maison et boire beaucoup d'eau.
Alors,
j'espère que c'est plus clair pour
oui,
tout
oui,
le monde.
Oui, oui, oui. On souhaite du beau temps pour en profiter, aller à l'extérieur et qu'on sente que le printemps est arrivé. Des températures agréables autour de 15-20 degrés, puis pas de température pour rester au lit quand même.
Exactement, Hélène.
Merci, Monique. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère.
À la semaine prochaine, oui. Au plaisir.
Au plaisir.
Soir de pluie et de brouillard, quelques taxis passent sans me voir. soir, j'avais le blues sur le trottoir.
Retour en arrière, c'était un soir de pluie de blues trottoir.
Oui, souvenir, souvenir. Duo emploi 2026, cette année, ça se passe du 1er au 7 juin. On vous invite à ouvrir vos portes aux compétences des personnes handicapées. Une journée pour découvrir. Duo emploi consiste en une rencontre entre les entreprises et les personnes handicapées désirant vivre une expérience en emploi. Les entreprises du Québec sont invitées à accueillir des stagiaires. Les personnes handicapées sont invitées à expérimenter le quotidien d'une entreprise. Un accompagnement dans l'ensemble des étapes de préparation à cette journée sera proposé. Cet événement vous concerne si vous êtes une entreprise du Québec, du secteur privé, public, à but non lucratif, désireuse de rencontrer une main-d'œuvre motivée et d'affirmer ses valeurs sociales. Si vous êtes une personne en situation de handicap âgée de 16 ans et plus, résidant au Québec, motivée et disponible pour un stage d'exploration d'une journée, handicapée au sens de la loi au Québec, toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Une journée du haut emploi pour sensibiliser au handicap les décideurs, les gestionnaires, les employés de votre entreprise, faire découvrir vos métiers, découvrir une source potentielle de recrutement, promouvoir les valeurs sociales de l'entreprise. Et une journée du haut emploi pour les personnes en situation d'handicap, eh bien, permet de découvrir un métier ou une entreprise, préparer son intégration professionnelle, promouvoir ses compétences. Alors, vous avez jusqu'au 3 mai pour vous inscrire à cette belle activité du haut emploi. Et pour avoir plus de détails, vous allez à rosef.ca, rosef, R-O-S-E-P-H.ca, rosef qui signifie le regroupement, je cherche, je l'avais et je ne l'ai plus. Alors oui, le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. Alors, je peux aussi vous donner un numéro de téléphone, 438-798-0788, 438-798-0788. Et puis, il y a aussi un numéro sans frais, 1-833-376-7374, 1-833-376-7374. Une autre invitation, cette fois, c'est de l'Arche Montréal. L'Arche Montréal, qui est un organisme à but non lucratif qui offre un cadre de vie chaleureux et inclusif aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Alors, l'Arche Montréal vous convie à la 19e édition de son souper spaghetti annuel. Ça va se dérouler le samedi 9 mai à 16h à la salle communautaire de l'Arche Montréal. En plus de partager un bon repas, vous allez pouvoir participer à soutenir la mission, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie des personnes accueillies à l'Arche Montréal. Votre présence permettra de continuer à offrir des activités enrichissantes qui stimulent et apportent un bien-être précieux aux membres de la communauté de l'Arche de Montréal. Il y aura du bon manger, comme on dit, un tirage moitié-moitié, des prix de présence, etc. Alors, pour vous inscrire, pour réserver, vous faites l'arche-montréal.org, l'arche-montréal.org.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Les parasports avec Dominique Tremblay. Bonjour Dominique.
Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va, et vous?
Très bien, merci.
Super. Vous commencez par nous parler de para-hockey, l'équipe féminine de para-hockey qui a joué une série de matchs contre l'équipe américaine.
Oui, c'est une série de matchs qui s'est déroulée en fin de semaine à Ottawa. Les deux équipes se sont rencontrées à trois reprises, soit vendredi, samedi et dimanche. Et ça a été des belles rencontres. Le premier match s'est terminé par le pointage de 2-1 pour les Américaines en tir de barrage. Le deuxième match s'est terminé à 5-4, toujours pour les Américaines. Et ça aussi, ça a été un très bon match. Et le dernier match a été un petit peu plus difficile. Le Canada s'est incliné 7-1. Les deux équipes, les Canadiennes et les Américaines, sont vraiment les deux meilleures équipes au monde, mais lors des derniers championnats du monde, ou du moins les premiers championnats du monde, les compétitions officielles, les Américaines avaient battu le Canada quand même assez facilement. Donc c'est intéressant là, sur une période de trois matchs que les rencontres étaient beaucoup plus serrées, puis ça augure bien là, pour le sport. On a parlé plusieurs fois là, du para-hockey féminin. Ils sont à la recherche d'un ajout pour les prochains Jeux paralympiques d'hiver en 2030. Ils doivent d'ici là avoir des championnats du monde à tous les ans et avoir à s'assurer qu'il y a une dizaine de pays sur trois continents qui puissent participer. Donc, la Fédération internationale là, travaille très fort pour s'assurer que ça va arriver, pour que les femmes soient vraiment bien acceptées là, dans les compétitions des Jeux paralympiques. Je voulais aussi mentionner que... j'ai un blanc de mémoire, là, mais la
une joueuse d'hockey?
Une joueuse d'hockey, Raphaël Tousignan, voilà, vous m'avez aidé. Raphaël Tousignan, qui est une des Québécoises de l'équipe et une des meilleures joueuses au début de l'année, a été diagnostiquée avec un cancer. Elle vient de terminer là, ses traitements de chimiothérapie et devrait être opérée là, d'ici une dizaine de jours. Et elle a quand même participé à la compétition aux trois matchs. Elle a été nommée la joueuse du match pour le Canada lors de la troisième rencontre. Et évidemment, quand elle est sur la patinoire, là, elle ne pense pas aux épreuves qui vont peuvent arriver là, au cours des prochains mois. Donc, c'était une belle expérience pour elle. Et aussi, là, l'équipe l'encourageait. Et ça a été quelque chose qui était très motivant là, pour tout le monde. On espère que Raphaël va bien s'en tirer parce qu'elle est quand même une des piliers là, du para-hockey féminin et on lui souhaite bonne chance.
Absolument. Raphaël Tousignan, que j'ai reçu récemment, elle qui est animatrice confidente de l'émission L'âge des possibles où elle rencontre des adolescents en situation de handicap et c'est une émission vraiment à regarder sur Ami Télé. Alors, on poursuit maintenant avec les prix Laureus, les Laureus World Sports Awards. Et on a fait des recherches, Laureus pour laurier, symbole de victoire.
Oui, c'est ça. C'est une fondation internationale qui, à chaque année, remet des prix aux athlètes sportifs masculins, féminins, les équipes à tous les ans. Depuis 2000, des athlètes paralympiques sont ajoutés là, à la liste de gagnants. Donc, pour l'athlète sportif avec un handicap, à chaque année. Chantal Petitclair est la seule Canadienne depuis 25 ans à avoir remporté ce prix-là là, au début des années 2000. Donc, c'est un très bon travail. Il y a eu seulement deux Canadiens. Donc, Chantal Petitclair, qui a déjà été en nomination, puisqu'elle a évidemment gagné. Et Brian McKeever, un skieur qui a battu tous les records concernant les médailles pour les Jeux paralympiques d'hiver. Donc, c'est les deux seuls Canadiens qui ont été mis en nomination. Cette année, la cérémonie aura lieu la semaine prochaine en Espagne. Évidemment, il n'y a pas de Canadiens dans la liste, mais je voulais en parler parce que c'est quand même une très belle reconnaissance que le monde paralympique reçoit lors de ces remises de prix. Il y a tous les athlètes, que ce soit au niveau amateur ou professionnel à travers le monde, qui sont en nomination. Donc, c'est une très belle reconnaissance et je voulais le souligner.
Oui, vous faites bien. Les Laureus, qui sont en quelque sorte les Oscars du sport, qui seront remis à Madrid, comme vous le disiez, en Espagne, en avril. Bien, ce mois-ci.
Oui, c'est ça.
Et on termine avec la zone d'essai Loto-Québec au défi sportif.
Oui, je vois, je me souviens avec Émilie là, qui travaille pour le défi sportif Altergo et la prochaine invitée.
Tout à fait.
De Joe, mais on s'est parlé ce matin. Je voulais parler de la zone d'essai sportive au centre de Robillard durant le défi sportif. Quelque chose de drôle qui est arrivé il y a une couple de jours. Là. Une amie commune m'a contacté parce que un ami de sa fille à l'école, un jeune garçon de 9 ans, voulait faire un travail d'école sur le basketball en fauteuil roulant. Il voulait donc rencontrer des gens qui jouent au basketball en fauteuil roulant et aussi peut-être essayer le sport. Donc, je lui ai parlé de la zone d'essai de sport paralympique qui est au centre Robillard là, durant le défi sportif. Il y a plusieurs sports que les jeunes peuvent essayer. On parle du basketball, évidemment, en fauteuil roulant. On parle du boccia. On parle du curling sur tapis. Et aussi, on parle aussi de aviron. Je trouvais ça drôle. Évidemment, c'est pas, il y a pas une piscine qui a été construite là, dans la place, la salle où il va y avoir les essais. Là, c'est un équipement d'entraînement qui ressemble à un aviron, qui fait le même mouvement que l'aviron. Et les gens peuvent l'essayer. Il y a plein d'autres choses que les jeunes peuvent essayer. Et c'est une bonne façon d'apprendre un peu plus sur le monde paralympique. J'invite tous les gens à aller faire un tour pour voir ça. En plus, évidemment, les compétitions, mais c'est bien aussi d'avoir la chance de s'asseoir dans un fauteuil roulant et de lancer des ballons de basketball dans le panier. Là. C'est toute une expérience pour les jeunes qui n'ont jamais essayé.
Merci beaucoup. Dominique, je rappelle que vous serez notre reporter officiel de la 43e édition du Défi sportif Altergo qui prend son envol le 23 avril. Merci.
Oui, ça va être plaisir. Merci. It's the end, baby. Jibberi in the house. Moi, pas parler. Chéri, moi, pas parler. So, chéri, parler. Parce que moi, pas parler. Moi connais yo faire mal, mais baby m'pas ton coup l'autre yon pas de problème. Yeah, si nous ka fait tirer les autres. Non moi pas parler mais pas prendre ça nous ka fait jodi. Nous ka lover sous ti mélodie à baba woti. Moi ka fait ou crazy tonight you my lady, but baby you know. Moi pas parler. Chéri moi pas parler. So chéri parler. Parce que moi ça nous plaît de faire tout bas. Ma baby girl, nous bloquer sous yon petit compas. N'a bien passé, là nous faire comme ça. Moi paré, si ou paré, pour yon petit rendez-vous l'amour. Yeah, yeah, I'm ready, are you ready? Moi capable ça tous les jours. Moi pas parler. Chéri, moi pas parler. Pa 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 p
La chanson Papale, c'était The End avec G. Perry.
On y est presque, ça nous met dans le bain. Dans une semaine, jour pour jour, le jeudi 23 avril, va s'amorcer la 43e édition du défi sportif Altergo. Pendant 11 jours, près de 6000 athlètes ayant une limitation fonctionnelle vont prendre d'assaut les sites de compétition. Et pour en parler, on reçoit à nouveau avec grand plaisir la directrice générale adjointe d'Altergo, Émilie Bouchard-Labonté. Bonjour Émilie.
Bonjour Hélène, un plaisir partagé.
J'imagine que l'excitation est palpable dans vos bureaux en ce moment.
Complètement, ça paraît qu'on est dans le dernier droit parce que c'est vraiment le cas. Comme je disais la semaine dernière, là, je fais le décompte avec vous chaque semaine. Donc là, il reste juste 7 dodos avant que tout se parte. Puis l'énergie est vraiment palpable, les équipes sont mobilisées. Puis surtout l'impatience là, de voir arriver ces milliers d'athlètes-là sur nos sites de compétition. Et on travaille là-dessus toute l'année. Hein, fait que c'est vraiment ce moment-là qui va donner un sens à tout ce qu'on a accompli dans les 12 derniers mois. Donc c'est sûr que c'est super excitant.
Et aujourd'hui, Émilie, vous vouliez nous parler de trois façons concrètes pour que tout le monde puisse contribuer au succès de cette 43e édition.
Évidemment, parce que ça ne se fait pas seul, hein? Un grand défi sportif Altergo de cette ampleur-là. Et le défi sportif, c'est pas juste un événement, c'est une mobilisation collective, puis chaque personne peut jouer un rôle. Donc, c'est pour ça que j'invite les auditeurs de Canal M de peut-être participer en jouant un de ces rôles.
On commence avec ce qu'on pourrait appeler le cœur du défi sportif Altergo, les bénévoles.
Évidemment, parce que le défi sportif Altergo, sans ses bénévoles, il n'existerait tout simplement pas. Hein.
Ah ouais.
L'an dernier, c'est plus de 1100 bénévoles qui ont répondu à notre appel et qui ont fait la 42e édition d'un succès. Pour cette 43e édition, il y a déjà plus de 1200 bénévoles inscrits. Puis sans eux, c'est sûr que l'événement, il serait impossible à réaliser de la qualité qu'on l'offre. Puis ce qui est fascinant chez ces 1200 bénévoles-là, c'est vraiment la diversité de leur parcours.
Diversité. Quand vous parlez de diversité, ça ressemble à quoi?
Concrètement, dans nos belles statistiques, puis ça, on en est très fiers, c'est que plus de la moitié de nos bénévoles reviennent d'une année à l'autre. Donc,
c'est bon signe?
Dès qu'ils vivent une première expérience, ils ont vraiment envie d'y retourner une fois suivante. Ils nous disent souvent, « Ah, OK, j'ai prévu une première expérience. On se verra l'année prochaine. » Puis à l'autre extrême, de l'autre 50%, on a des bénévoles. Un bénévole sur 10 a participé à plus de 5 éditions du défi sportif et on compte même des personnes qui sont engagées depuis 30, 35 ans.
35 ans?
Oui, c'est impressionnant.
Wow.
Hein?
Très inspirant aussi.
Oui, inspirant aussi, puis ça démontre à quel point le défi sportif, il marque les gens. Autre fait un peu intéressant chez nos bénévoles, c'est que 70% d'entre eux s'inscrivent puis s'impliquent en groupe, entre collègues, entre élèves ou via des organismes communautaires.
Ils ont quel âge environ?
Ils peuvent avoir 14, 15 ans, ils peuvent avoir 60 ans, 70 ans.
Alors, tout le monde est invité.
Tout le monde est invité. Ça fait une très belle diversité. Il y en a qui viennent faire du bénévolat avec leurs parents. Ensuite, deviennent adultes, font du bénévolat à leur tour.
Il y a
une transmission, effectivement.
Donc, le bénévolat devient une expérience collective.
Une expérience collective quand on le fait en groupe, parce que justement, ça peut être une belle activité, team building aussi entre collègues ou entre amis et tout ça. Et j'aimerais ça aussi prendre un moment pour parler à des bénévoles individuels, parce que si vous nous écoutez puis que vous hésitez à vous inscrire seul, sachez que c'est souvent comme ça que ça commence. On arrive par curiosité. Mm-hmm. Puis après ça, on repart marqué pour longtemps. Puis, on a encore des places de bénévolat à combler cette année, Hélène. Puis là, comme je vous le disais, on est à une semaine de l'événement.
Ouais.
Donc, s'il y a des personnes retardataires qui réfléchissaient puis qui avaient envie de dire « Ah, OK, j'ai envie de donner un coup de main à la réussite de cet événement-là. »
Ils vont être bien accueillis.
Ils vont être très bien accueillis. On a encore des places à combler en montage et montage, entre autres, à la cafétéria. Puis quand en montage et montage, on n'a pas besoin d'être bien... C'est pas pour être fort, on n'a pas besoin de certaines forces, c'est pour déplacer des affiches ou des choses comme ça.
Okay.
Donc, je confirme que ça va être vraiment une expérience incroyable pour vous. Si on fait le total des heures travaillées, là, On réunit tous les heures travaillées par les bénévoles l'année dernière. Là, on est à 17 393 heures. C'est assez impressionnant.
Hey, c'est gigantesque. Et Émilie, si il y a des gens qui sont intéressés à faire du bénévolat, là, je sors un peu du plan là, de match, mais comment on fait?
C'est très simple. Défisportif.com, sur le site Internet, il va y avoir une section « Comment s'impliquer » et toutes les informations vont être là pour nous joindre, pour nous appeler, pour communiquer avec nous et vous inscrire directement sur notre plateforme de bénévolat pour pouvoir voir encore c'est quoi les plages disponibles, les sites de compétition, parce que je le rappelle, on est à Montréal, à Boucherville, à Longueuil. Mm-hmm. Donc, si vous êtes sur la Rive-Sud, vous n'avez pas besoin de traverser un pont pour venir faire du bénévolat. C'est même possible d'en faire à partir de la Rive-Sud.
Tout est possible.
Tout devient possible.
Tout devient possible, oui, c'est votre slogan de l'année. Et
exactement.
Pour les personnes qui aimeraient contribuer, mais qui ne peuvent pas être bénévoles?
Ils peuvent contribuer autrement, notamment par un don. Puis je vais dire plus, en donnant, on va changer concrètement la vie de quelqu'un si on donne à Altargo. Cette année, on a lancé un nouveau volet solidaire dans le cadre du défi sportif Altargo, la campagne « Relevons le défi ». Parce qu'on sait que le défi sportif Altargo, chez les athlètes, ça fait vraiment la différence dans la vie d'un athlète, puis on aimerait ça encore bonifier l'expérience qu'on offre aux athlètes présentement, fait que c'est la raison pour laquelle on fait un appel aux dons par cette campagne-là. On sait que l'athlète qui va en bénéficier, ça va être la première fois qu'il risque de se sentir à sa place, de mm-hmm. penser qu'il peut participer comme les autres, la première fois qu'il risque d'être applaudi, de réaliser ce qu'il est capable de faire. Donc, ce don-là, ça sera pas juste un montant, ça va donner l'accès au sport aux jeunes, lui faire prendre confiance en lui. Pour lui, ça va être une porte qui va s'ouvrir. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose de contribuer à notre campagne. Relevons le défi.
Alors, justement, comment on peut y participer à cette campagne?
Sur le site web du défi sportif Altargo, toujours, défisportif.com, vous allez avoir un onglet sur notre campagne de dons, faire un don. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez voir toutes les instructions. Vous pouvez faire tout simplement un don. Créer une page de collecte de fonds si vous avez envie de... en équipe de lever un montant un peu plus élevé et donc pour relever le défi ensemble. Donc ça pourra peut-être ce simple geste-là va permettre de faire changer le parcours de plein de jeunes. Donc on apprécie toute somme.
Défisportif.com, on retient ça.
Exactement.
Et on y va. Finalement, Émilie, une troisième façon de contribuer, c'est tout simplement d'être là, d'être présent.
Bien oui, bien sûr, parce que peut-être que du bénévolat, c'est un peu trop prenant. De faire un don, on n'a peut-être pas nécessairement les moyens, mais aller les encourager, ces athlètes-là, encore là à Longueuil, à Boucherville, à Montréal, sur plein de sites de compétition.
Ça coûte rien et ça rapporte bien pour les gens qui excellent, qui font du sport.
Exactement.
Et puis pour ceux qui sont dans la salle.
Se faire sentir encouragé va faire une extrêmement grande différence chez l'athlète. Et pour vous, vous allez réaliser à quel point cet événement-là est marquant pour ces athlètes-là. Donc, c'est sûr que ça va être gagnant-gagnant.
Vous nous invitez à venir encourager les athlètes dans plusieurs lieux.
Exactement. L'entrée est gratuite aussi, hein. Comme on le disait, ça ne coûte rien. Sur tous nos sites de compétition, l'entrée est gratuite. Au Parc Jarry pour notre mini-marathon, au Complexe sportif Claude Robillard pour tout ce qui est volet scolaire, mais aussi notre championnat canadien de rugby en fauteuil roulant, notre tournoi de hockey-ball santé mentale et nos tournois de balle molle et de pickleball pour les personnes sourdes. Donc, ça va être un gros programme qui va se passer au Complexe sportif. À l'Aréna Maurice Richard pour le boccia scolaire national, puis notre grande Coupe du monde de World Boccia. Au Cégep Édouard Montpetit, dans le centre sportif pour nos tournois de basketball en fauteuil roulant et de power chair soccer. Et finalement, le centre des glaces Gilles Chabot à Boucherville pour le para-hockey junior et notre championnat canadien de curling en fauteuil.
Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il y a aussi une autre façon d'y participer.
Encore là, je vous renvoie sur notre site web défisportif.com pour aller consulter les résultats. Certains matchs de boccia de la Coupe du monde seront diffusés en direct directement sur notre site web également.
Oui.
Puis pour rien manquer de toute cette action-là, je vous invite à vous abonner à nos infolettres, à nous suivre sur nos médias sociaux, dont Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, il y a plein d'endroits où vous pouvez consulter notre contenu. Puis si vous allez penser que vous êtes présent, même si vous êtes à l'extérieur.
Merci beaucoup, Émilie. On se reparle mardi prochain, tout juste avant le début du 43e défi sportif Altergo. Là, on sera le 21, puis ça commence le 23.
Je pense que je vais être stressée, rendue là, Hélène. Merci.
On va vous servir un petit tisane.
Oui, c'est parfait, ça.
Au plaisir. Thank you.
la pièce musicale Dreamland de Robert Gromenka.
Plusieurs villes sont sur le qui-vive devant les risques d'inondation. Plusieurs municipalités québécoises sont sur le qui-vive en raison de la hausse du niveau des cours d'eau et des risques de crues printanières. La pluie annoncée pour les prochains jours a d'ailleurs incité la ville de Montréal à activer son plan particulier d'intervention en cas d'inondation dans l'agglomération. Environnement Canada a diffusé des alertes météorologiques pour plusieurs régions. Des averses soutenues sont prévues dans le sud du Québec, dans la région de Montréal et dans les Laurentides notamment, où des précipitations de 15 à 25 mm sont attendues jeudi, aujourd'hui même. À l'échelle de la province, le ministère de la Sécurité publique fait état d'une inondation moyenne à la tête des chutes Darwin de la rivière Waro dans le secteur de Rawdon et de 9 inondations mineures. Depuis 10 ans, l'organisme Inouï vient en aide à des jeunes en situation d'inadaptation scolaire ou psychosociale en les accompagnant dans un processus de création musicale. Le 10e anniversaire de cette initiative sera souligné aujourd'hui au Club Soda. Pour l'occasion, des artistes qui ont enregistré des chansons avec des jeunes fouleront la scène en compagnie de leurs protégés. Parmi les artistes de renom, on trouve Mike Lee, Lille, Command de Bord, Clairel, aussi Mel Pacifico, Funk, Lion. Les profits de l'événement seront remis à Inouï. Un album regroupant les pièces est offert sur les plateformes. Céline Dion rend hommage à son tour au regretté promoteur et impresario montréalais Donald K. Donald, mort lundi. La chanteuse québécoise la plus connue à travers le monde a écrit au sujet de l'homme de 82 ans dont le vrai nom était Donald K. Tarleton. « Merci pour tous les spectacles, Donald. Tu as toujours été là pour nous et tu nous manqueras, Céline, avec deux becs, point de suspension. » Lors de l'annonce de son décès, les réactions ont fusé de toutes parts. Le magazine Billboard ayant même qualifié Donald K. Donald de légende canadienne de l'industrie musicale qui s'est éteinte. Suggestion de Sylvia Galipeau dans la presse, Bulle, très touchant documentaire sur les coulisses d'une pièce de théâtre unique, arrive en salle en version intégrale ces jours-ci, pile pour le mois de l'autisme. Aujourd'hui, en avant-première au Théâtre Outremont, la projection se fera en présence des cinéastes Mélissa Lefebvre et Paul Thom, accompagnés de plusieurs élèves et artistes du projet. À noter que plusieurs projections spéciales sont aussi prévues dans les semaines à venir à la Cinémathèque de Montréal, au Beaubien, au Cinéma public, sans oublier au Clap de Sainte-Foy. Un peu de joie avec la musique de Herb Alpert. Je suis toujours mêlée. Je me demande tout le temps s'il faut dire Herb ou Herb. C'est bien Herb?
Oui, comme herbe.
Merci, Mathieu Tessier. C'est tout pour aujourd'hui. Ah oui, demain, on ne sera pas là, mais c'est demain qu'on entendra pour la première fois, à moins que, qu'il y ait des fuites, là. La nouvelle chanson de Céline Dion, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman. Ici Hélène Denis, au plaisir.